À 8h, le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. Dans l'actualité de ce dimanche, un nouvel incendie précédé d'une explosion qui a fait 2 morts hier soir, une mère et sa fille de 4 ans dans le 8e arrondissement de Lyon. Explosion qui s'est produite dans une boulangerie comme à Paris il y a un mois de cela. Retour dans ce journal sur ce 13e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Une mobilisation de nouveau en baisse, semble-t-il, mais toujours émaillée de violence. À Paris, un manifestant d'une 30aine d'années a une main arrachée. Dans l'actualité également, l'Iran célèbre le 40e anniversaire de sa révolution islamique, alors qu'en Syrie, les forces arabo-kurdes soutenues par les États-Unis ont lancé leur bataille finale contre l'État islamique. À 8h10, le journal des sports présenté par Fabrice Rigobert, avec au sommaire le match Angleterre-France du tournoi des 6 nations attendu cet après-midi à 16h à Twickenham, et les Françaises à un point de la qualification pour les demi-finales de la Fed Cup, c'est en tennis. Et enfin, à 8h20, les hôpitaux psychiatriques et la psychiatrie en général, en compagnie de votre invité Eric Delvaux.
Oui, la psychiatrie, enfant pauvre de la médecine, on va en parler avec le professeur Marion Leboyer. Elle est co-auteure d'une enquête sur la psychiatrie. L'état d'urgence, c'est paru chez Fayard.
France Inter.
Après 3 mois de mouvement, la mobilisation des Gilets jaunes perdure. S'il y avait peut-être moins de manifestants dans les rues hier, 51 000 dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, le double selon les Gilets jaunes eux-mêmes, contre 58 000 le week-end dernier, les violences, elles, sont toujours présentes. C'est ainsi qu'à Paris, un manifestant a une main arrachée devant l'Assemblée nationale, semble-t-il en voulant écarter une grenade de désencerclement. Une camionnette Vigipirate a elle aussi été incendiée au pied de la Tour Eiffel, ainsi que d'autres véhicules. Le reportage dans les rues de Paris de Benjamin Elie.
Ils ont défilé d'un pas rapide, poussé par des slogans sans nuance. Des Champs-Élysées au Sénat, en passant par l'Assemblée nationale, c'est là qu'un groupe fait dégénérer la situation. Des manifestants tentent d'escalader les grilles.
Attention, ils arrivent !
Ils jettent des projectiles sur les forces de l'ordre.
Et la batte, mettez-vous par là !
Ça y est. Premier tir de gaz lacrymogène.
Allez-y, mes petits salauds.
Nous sommes devant l'Assemblée nationale. Sur les murs du Quai d'Orsay, à quelques mètres, il y a écrit « Qui ne casse rien n'a rien ».
Encore une bavure policière, tu trouves ça normal?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a plus de main, mec. Il s'est pris un truc, il a plus de main.
4 doigts arrachés pour ce gilet jaune d'une 30aine d'années.
Les Black Blocs ont commencé à chercher la merde un peu et...
Ouais, c'est pour vous qu'ils font ça!
Un mec qui a pris une grenade, il fait arracher une main.
C'est pas pour eux, c'est pour vous!
Ben non, je valide pas, mais les mecs, c'est des casseurs, des Black Blocs. On sait pas s'en débarrasser, ils sont là tout le temps, c'est pas des gilets jaunes. Alors après, ok, le mec, il fait des conneries, ça justifie de lui arracher une main?
Le cortège avance jusqu'au Champ de Mars et laisse dans son sillage des poubelles brûlées, des vitrines de banques brisées, des distributeurs vandalisés, plusieurs voitures incendiées, notamment de la mission Sentinelle, et sur les murs des inscriptions, la marque des anticapitalistes les plus radicaux. Hier encore, ils avaient un gilet jaune sur le dos.
Un reportage signé Benjamin Elie. Plusieurs milliers de gilets jaunes se sont également rassemblés, avec là aussi bien souvent des débordements à Bordeaux, Caen, Marseille, Metz ou bien encore Toulouse.
Une explosion et un incendie hier soir dans le 8e arrondissement de Lyon.
Explosion dans une boulangerie située au rez-de-chaussée d'un immeuble situé route de Vienne, puis incendie général. Bilan, 2 morts, une femme et sa fille de 4 ans, ainsi que 4 blessés légers. Écoutez la réaction et les précisions de Jean-Yves Sécheresse, l'adjoint à la sécurité du maire Gérard Collomb, au micro de Christophe Vincent.
Il y a donc eu une explosion, il y a une enquête, la PJ est sur place, c'est un drame assez terrible. Le papa, c'est lui qui a signalé que la maman et l'enfant étaient au premier étage alors qu'il était transporté à l'hôpital. C'est un drame pour ce quartier. On ne sait pas si c'est une fuite de gaz, c'est l'enquête qui le dira. Il faut toujours se poser des questions. Nous avons ouvert un gymnase, les gens ont été conduits dans ce gymnase et ils sont accueillis par la Croix-Rouge.
Un drame qui n'est pas sans rappeler celui de la rue de Trévise à Paris le 12 janvier dernier. Toutefois, vous l'avez entendu, la piste criminelle n'est pas écartée dans ce cas précis par les enquêteurs, d'autant que cette boulangerie avait déjà fait l'objet d'exactions.
L'Iran célèbre en ce moment le 40e anniversaire de la révolution islamique, marqué à l'époque par le retour de l'ayatollah Khomeini dans son pays.
Retour le 11 février 1979, très exactement, qui sera célébré demain par une grande manifestation dans les rues de Téhéran. Un anniversaire qui intervient dans un climat économique plutôt difficile dû au rétablissement des sanctions américaines. Nos envoyés spéciaux Franck Madvon et Gilles Gallinaro ont rencontré à Qom, la capitale religieuse de l'Iran, un haut responsable chiite proche de Khomeini qui estime en tout cas que la révolution a tenu toutes ses promesses.
L'ayatollah Sajadi reçoit dans le bureau envahi de livres reliés d'une modeste maison de Qom. Il y a 40 ans, il était aux côtés de l'imam Khomeini à son retour en Iran. Un homme très rationnel, très humain, dit-il. Il se souvient des foules immenses venues accueillir celui qui deviendra le premier guide de la révolution. Pour Sajadi, la République islamique a tenu ses promesses malgré les difficultés économiques du moment, en particulier les sanctions américaines. Les États-Unis sont les pires fauteurs de troubles. Comme le disait l'imam Khomeini, c'est le grand Satan. Avec à sa tête Donald Trump, un homme d'affaires violent, il ne sait pas négocier dans le calme et la sérénité. Il le fait comme si c'était un sport de combat, dans la violence. L'ayatollah Sajadi n'épargne pas les alliés des Américains. Les responsables politiques français, notamment, ne sont pas indépendants, dit-il. Ses propos reflètent ceux du guide Ali Khamenei, qui affirmait vendredi qu'on ne pouvait pas faire confiance à l'Europe malgré ses efforts pour sauver l'accord nucléaire de 2015. À Côme, Gilles Gallinaro, Franck Madvon, France Inter.
À l'étranger encore, Abdelaziz Bouteflika pourrait briguer un quatrième mandat. Le président algérien sortant, aujourd'hui âgé de 81 ans, très affaibli depuis un AVC survenu il y a 5 ans de cela, en effet été choisi par son parti pour représenter le FLN à la prochaine présidentielle, élection qui aura lieu le 18 avril prochain. L'opposition estime pour sa part que le président Bouteflika, qui n'a pas officialisé encore sa candidature, n'est plus en capacité de gouverner le pays. Et puis en Syrie, l'offensive finale est lancée contre l'État islamique. Les forces arabo-kurdes, soutenues par les États-Unis, ont en effet commencé à donner l'assaut aux quelques kilomètres carrés encore contrôlés par Daesh dans l'est du pays. Rappelons que depuis 2011, ce conflit en Syrie a fait plus de 360 000 victimes. Nous y revenons dans le journal de 9h.
Alors que les vacances d'hiver viennent de commencer pour la zone B, ceux qui ont la chance de se rendre au sport d'hiver découvrent pour certains d'entre eux que les prix pratiqués sont loin d'être les mêmes selon les stations, notamment au niveau des écoles de ski.
Oui, bien souvent le vacancier qui se retrouve confronté à faire le choix d'une station de sport d'hiver pense à comparer les prix des logements, de la restauration, des forfaits et de la location du matériel de ski, mais rarement celui ou ceux des cours de ski délivrés par l'ESF, persuadé que ce sont les mêmes partout. Eh bien non, le site Skigourou, chargé de comparer ces prix dans les stations des Alpes, révèle en effet dans une enquête que certains sont bien plus élevés que la moyenne. Xavier Grumeau.
L'enquête se base sur les prix des cours collectifs pour enfants. En gros, les tarifs vont du simple au double selon les stations. Par exemple, le matin, pour 6 cours de 2h30 à Chamonix, c'est 170 €, alors qu'à Courchevel, cela vous coûtera 300 € et les leçons sont plus courtes. C'est d'ailleurs ce qui a surpris Gaye Delahousse, fondatrice du site Skigourou.
En soi, les tarifs ne me surprennent pas, par contre, c'est les écarts qui me surprennent. Quand on les ramène surtout à l'heure, sur 6 jours des cours, si vous prenez 45 minutes de différence, ça fait 4h30 d'enseignement en moins.
Alors pourquoi de tels écarts? En tout cas, ce n'est pas l'école du ski français qui les impose. Jean-Marc Simon est le directeur général du syndicat national des moniteurs de ski.
Chaque structure locale fixe ses prix et elle est libre de le faire comme elle l'entend, par rapport au marché, par rapport à ses contraintes locales, par rapport à sa clientèle. Il n'y a pas de réglementation nationale sur cette question.
Le cours reste le même, il est délivré par un moniteur diplômé d'État qui enseigne suivant la méthode d'enseignement du ski français. Non, ça reste le même, bien sûr. Oui.
En moyenne, les cours de l'ESF sont de 182 € la semaine, les plus chers restant ceux de Courchevel.
Xavier Grumeau, un hommage pour refermer ce journal. Hommage au dessinateur Tommy Ingerer, décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Cork, en Irlande, à l'âge de 87 ans. Hommage de sa fille, l'une strasbourgeoise de 28 ans, à qui Tommy Ingerer faisait parvenir des albums pour enfants dédicacés, mais aussi des dictionnaires. Gwendoline, c'est son prénom, que Corinne Fluger a rencontré dans le musée qui porte le nom de son parrain à Strasbourg.
Mes deux parents ont travaillé pour lui. Moi, je l'ai beaucoup vu étant petite parce que il adorait les enfants et il m'envoyait tous ses livres, il me les dédicassait et puis il faisait toujours des petites dédicaces très spéciales avec son écriture très particulière. Un de ses grands cadeaux aussi, c'était des dictionnaires. Il aimait m'envoyer des dictionnaires qu'il dédicassait. Il aimait me raconter des histoires, me fabriquer des jouets complètement extraordinaires. Il avait toujours une très bonne idée et avec un rien, il pouvait construire quelque chose de fantastique. Donc pour les enfants, ça c'est génial. Par exemple, il aimait beaucoup les Barbie et avec les emballages de bouchons de champagne, il aimait me faire des jupes pour les Barbie. Voilà, ça c'est un des trucs dont je me souviens.
Des propos recueillis par Corinne Fugler. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Éric Delvaux.
Merci Serge Martin.